France Culture. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Enquêter là où le crime rencontre le vivant, tel est le métier de notre invité qui a choisi de défendre la nature à tout prix. Profession enquêteur en criminalité environnementale, c'est le choix d'une vie consacrée à renseigner cette guerre qui a cours contre la nature et qui génère plus de 280 milliards de dollars par an, selon un rapport d'Interpol daté d'octobre 2022. Une criminalité qui se place derrière le trafic de drogue, la contrefaçon et la traite des êtres humains. Bonjour Louis Rochard.
Bonjour Aurélie.
Merci d'être avec nous. Vous nous livrez votre regard, votre vécu, votre engagement dans un livre paru chez Artaud et intitulé « Crimes contre nature », écrit en collaboration avec Pauline Vallée. Et vous dénoncez ce fléau encore mal connu, silencieux, peu poursuivi, mais dans un contexte où des services de recherche et de police couplés à des ONG et des structures comme la vôtre, Green Ghost, s'associent de plus en plus dans une lutte pour préserver les espèces au cœur de ce trafic illégal, criminel et dévastateur. Nous allons en parler ensemble. Bienvenue à vous et à nos auditeurs. Vous êtes dans le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, toujours préparé par la fine équipe Célestine Babinet, avec la collaboration de Aurélie Marcé, Vanessa Chang, Pierre Pinault de l'INA et Eva Canneparo de la documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique Éric Perruchot-Triboulet.
À bord de cet hélicoptère, les forces de sécurité colombiennes doivent repérer des mines d'or illégales pour ensuite les détruire. Cette méthode est particulièrement efficace. Depuis le ciel, en effet, il est plus facile de repérer ces exploitations, sorte de taches brunes au cœur de la jungle verdoyante. Au milieu de la végétation, les forces de sécurité tombent sans surprise sur des engins de chantier. Ils permettent d'extraire de l'or et d'autres métaux, ensuite exportés vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Un commerce juteux qui profite à l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, et aux FARC.
Nous réussissons ainsi à affecter les économies criminelles. Les groupes armés, illégaux ou organisés, profitent de l'extraction d'or. S'ils ne sont pas directement propriétaires de la machinerie, ils perçoivent une taxe des personnes qui extraient l'or.
En plus de la déforestation, cette activité nécessite l'utilisation de mercure, un autre désastre écologique. Utilisé pour séparer l'or des autres sédiments, il est particulièrement nocif. Surtout que les mineurs le déversent directement dans les rivières qui contaminent à leur tour les zones alentours.
Pour l'extraction d'un gramme d'or, environ 5 grammes de mercure sont utilisés. Un seul gramme de mercure contamine environ 600 000 litres d'eau. Le mercure contamine nos affluents d'eau et nos ressources naturelles.
Extrait d'un reportage diffusé sur TV5 Monde le 5 février 2023. Louis Rochard, c'est un exemple de la criminalité environnementale, une guerre dont peu de personnes parlent. Dites-nous, que met-on derrière la criminalité environnementale, en dehors de l'orpaillage illégal dont on vient d'entendre et ce témoignage dont on vient de prendre la mesure?
Lorsqu'on entend derrière la criminalité environnementale, c'est des actes commis illégalement en puisant des ressources naturelles, qu'elles soient faune, flore, minerais. Et on doit prendre un exemple et une image très concrète, c'est que la criminalité environnementale, c'est un crime en col blanc. Le but, c'est de faire du profit. Le but premier n'est pas du tout d'anéantir l'environnement, puisque on investit plutôt justement sur l'environnement. On en parle comme une économie criminelle, donc je vais pouvoir vous parler d'économie d'échelle, d'investissement, de rentabilité, de charges. Je vais vous parler de personnel, je vais vous parler de logistique,
tout comme une entreprise.
Exactement, tout comme une entreprise. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la criminalité environnementale, pendant de très nombreuses années, elle a été perçue comme uniquement une perte de biodiversité. On en a compris effectivement les conséquences, avec justement des biotopes qui disparaissent, des animaux qui disparaissent, des maillons d'une chaîne qui disparaissent, avec des populations aussi qui ont été gravement touchées par ça, par une stabilité aussi sécuritaire, sociale, économique et politique. Mais à présent, on comprend de plus en plus que la criminalité environnementale, c'est une industrie, au même titre que le stupéfiant, au même titre que, vous l'avez dit tout à l'heure, la traite d'êtres humains, l'esclavage, la contrefaçon. Et c'est pour ça que la criminalité environnementale se hisse parmi le haut spectre justement des crimes organisés. comme vous dites, hein, troisième, quatrième position, en fonction en fait de ce qu'on inclut aussi dedans. Si on parle uniquement de bois, de faune, mais aussi il y a le détournement aussi de ressources hydriques qui devient de plus en plus important sur la scène internationale avec la privatisation illégale de ressources justement autour de l'eau. Et puis on va s'attaquer à quelque chose qui est de plus en plus important et peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est autour des minerais. Parce que les minerais, donc on connaît pour la plupart notamment l'or, pour ne citer que lui, et qui depuis des millénaires fait que bah, il est présent dans nos sols. Mais nous, maintenant, êtres humains, nous souhaitons l'extraire pour des besoins beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus fins. Et donc du coup, nous devons nous attarder aussi sur ce que représente le bénéfice autour de l'extraction illégale de terres rares, de minerais stratégiques qui sont dédiés à l'utilisation propre de notre transition énergétique et essayer de verdir quelque chose autour de nous, mais peut-être pas forcément à l'autre bout du monde.
Donc terres rares, braconnage, orpaillage illégal, trafic d'espèces sauvages protégées, coupe illégale de bois, accaparement de terres, pollutions environnementales, extraction de ressources naturelles stratégiques. Et puis vous nous offrez aussi dans votre livre, dès le début, un état des lieux avec des chiffres qui sont à mentionner. Le commerce d'espèces sauvages représente jusqu'à 23 milliards de dollars par an. Oui. Le trafic de bois, 152 milliards. L'extraction illégale de l'or, près de 48 milliards. Et chaque arbre en Amazonie peut rapporter 10 fois plus qu'un kilo de cocaïne. Concrètement, derrière ces pratiques, on trouve qui, quoi, des cartels ?
Alors, on a effectivement ce qu'on appelle une typologie criminelle. Quand on fait de la criminalité environnementale, il faut évidemment s'attarder à de la criminologie. Et de ce fait, on apprend à connaître qui on a en face, en fonction d'un territoire, en fonction de l'histoire qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que, justement, les personnes font, justement, des actes répréhensibles envers l'environnement ? Est-ce que c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas le choix ? Mais est-ce que c'est une diversification d'activités au même titre qu'une entreprise encore? Et effectivement, c'est là où on retrouve les cartels qui, pendant de très nombreuses années, étaient coutumés du fait de se tourner vers du stupéfiant et plutôt du trafic d'armes et puis de la traite d'êtres humains. Et puis, petit à petit, on se rend compte que, bah, encore une fois, dans un jargon d'entreprise et d'économie internationale, je contrôle un territoire, j'ai corrompu, j'ai une route logistique. Et en même temps, j'ai sous mes yeux, sous mes pieds, une ressource qui me rapporte énormément d'argent avec très peu en fait d'investissements réalisés et surtout très peu de risques. Pourquoi ? Parce que le crime environnemental, c'est énormément de profits pour très peu de risques. Et on a effectivement d'un côté des cartels qui vont se diversifier. On va avoir aussi des gangs, plutôt sur le Brésil, avec le PCC, le CV, le Tren de Alagoa, qui sont en fait des gangs extrêmement violents, qui émanent des prisons, et qui, avant, commettaient uniquement des homicides pour contrôler des territoires qui justement étaient liés à la drogue, et pour de la corruption. Et puis en fait, on s'aperçoit que, et on les retrouve sur le terrain, on s'aperçoit que ces gangs, justement, viennent de plus en plus profondément au fin fond de l'Amazonie pour du bois, pour du bétail, pour de l'or, pour des terres rares, pour du coltan, par exemple. Et on retrouve un petit peu ces schémas. Donc on va avoir les mafias italiennes qui s'occupent du territoire justement sud-européen. Et puis on va avoir des guerrieros, le LN, les dissidents des FARC, le FDN, qui sont uniquement des groupes de base militaire, qui sont associés à une cause politique, généralement marxiste, et où on se retrouve à extraire illégalement des ressources naturelles pour financer. Et pourquoi ? Parce que l'or est intraçable, il est blanchissable très facilement, lavable très facilement. Et on s'est rendu compte depuis 5-6 ans, et ça c'est issu justement de nombreux travaux en collaboration avec les forces de l'ordre notamment, que les denrées extraites illégalement de la terre sont troquées. Je vous donne un exemple.
Oui.
Un jaguar va être troqué contre, par exemple, 2 bidons de 100 litres de mercure. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus simple, effectivement, de troquer de quelque chose qu'on a déjà, plutôt que de devoir sortir du cash, qui va, lui, être potentiellement traçable et beaucoup plus difficile à blanchir.
Alors, les marchés. Parce que dans votre livre, on voit que les marchés asiatiques sont extrêmement présents.
Tout à fait. On se retrouve avec deux problématiques. La première est qu'on a affaire à une croyance ancestrale liée à la médecine traditionnelle chinoise et qui est dans les mœurs, effectivement, mais qui pose un réel souci, c'est qu'on se retrouve maintenant avec des compagnies qui spéculent, qui sont cotées en bourse et qui spéculent justement sur les ressources rares liées aux animaux qui disparaissent. Et donc du coup, de par le fait que ces animaux disparaissent, mais qu'en même temps, ils dans l'imaginaire, ont un pouvoir comme le rhinocéros, le lion, le tigre, l'éléphant, etc., etc., ou le totoaba, ont des vertus médicinales qui vont nous permettre de...
Supposer,
vous avez tout à fait raison de le préciser, d'éviter de mourir d'un cancer, de vieillir beaucoup plus lentement. Encore une fois, on parle de commerce international. Le bout de chaîne de cette criminalité environnementale transnationale est l'Asie, en grande partie. C'est, encore une fois, une réponse d'offre, de demande. Et le marché asiatique régule un petit peu ça. Et plus le marché tente à se diversifier avec justement des denrées rares, plus le marché évolue, plus justement les offres sont importantes. Et plus du coup on spécule sur une biodiversité qui meurt, tout simplement.
Alors cette criminalité épouse, on l'aura compris, les contours du crime organisé global. Mmh. Elle nourrit la corruption, finance des réseaux armés, déstabilise des États et des populations en sont victimes. Nous allons grandement plonger dans ce quotidien qui est le vôtre, Louis Rochard. Un sujet méconnu, vous le dites d'emblée. Vous êtes tombé dedans comment ? En un mot, comment est-ce qu'on devient enquêteur en criminalité environnementale ?
Il n'y a pas de formation pour devenir enquêteur en criminalité environnementale international, si je puis dire. On ne devient pas effectivement enquêteur en criminalité environnementale en sortant d'une école. Pour ma part, ça a été déjà un amour naturel et enfantin, et toujours avec ce même regard, je pense, de la nature et de la biodiversité. Une sensibilité qui émane évidemment du côté familial et plutôt personnel. Et puis, une incompréhension dans justement les luttes qui étaient faites pendant de nombreuses années où on se cantonnait à arrêter uniquement le braconnier et non pas à comprendre ce qu'il y avait au-dessus. Pourquoi est-ce que le braconnier, justement, tue un animal de façon tout à fait illégale ? C'était tout simplement pour répondre à un besoin de nourrir sa famille. Voilà. Mais qui a derrière ? Qui commandite derrière ? Qui finance une arme ? Parce qu'une arme, c'est 1 000, 1 500 euros. Un braconnier, de base, n'a pas du tout les fonds pour ça. Donc, petit à petit, je me suis rendu compte de ça. J'ai commencé à travailler, en fait, sur les groupes criminels organisés en Amérique du Sud. Et puis, je me suis rendu compte, comme je vous disais tout à l'heure, que de nombreux cartels avaient en leur sein, dans des entrepôts, des tigres, des lions, des primates, qu'ils utilisaient, en fait, pour offrandes, pour justement des entreprises asiatiques qui les fournissaient en matières premières pour le fentanyl, pour la cocaïne et pour tous les justement les substances toxiques qui arrivent sur notre continent également. Et donc du coup, j'ai cru comprendre qu'il était urgent parce que il fallait mettre un point d'honneur sur cette lutte qui était incomprise au début et j'ai voulu comprendre.
Alors, il faut préciser qu'en 50 ans, nous avons perdu 69% de la faune sauvage et que chaque année, 13 millions d'hectares de forêt disparaissent. Ça, c'est pour donner aussi un petit peu l'ampleur de ce qui se joue sur le terrain en matière environnementale. Vous avez fondé une entité dédiée à appuyer les unités et services engagés dans la criminalité environnementale. Elle s'appelle Green Ghost. Cela veut dire que vous travaillez pour qui ? Des ONG, des entités publiques, des forces de l'ordre ? Comment ça se passe et quels sont les outils que vous mobilisez ? Parce que vous parlez aussi beaucoup de l'OSINT, ces sources ouvertes qui vous donnent la possibilité de tracer carrément des cartes avec des noms et remonter les filières.
Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de prendre un petit peu les criminels à leur propre jeu, qui est justement de se diversifier et de par justement cette diversification, ils sèment des petits cailloux qui sont à la fois sur le terrain mais aussi sur Internet. Et Internet est une porte extraordinaire pour eux puisqu'ils peuvent puiser un petit peu dans les méandres du trafic international mais licite cette fois-ci avec des plateformes que nous utilisons quotidiennement pour acheter, pour vendre. Et ces trafiquants-là utilisent justement les mêmes méthodes avec des outils ou des monnaies type blockchain. Maintenant, en plus de ça, avec l'intelligence artificielle, on a affaire à une falsification de documents, CITES, justement pour de l'export, import d'animaux sauvages. Donc du coup, l'OSINT là-dessus est un outil très précieux qui permet de collecter, d'analyser et justement de comprendre de façon assez instantanée des informations et du coup qu'on transforme en renseignements stratégique pour des forces de l'ordre, pour des ONG, pour des militaires et un peu un spectre, on va dire, général qui est dissuasif, voire même judiciaire. On apporte des preuves auprès justement de ces unités avec lesquelles on va sur le terrain et ces unités font leur travail et nous, on est là en tant qu'experts et on entame un processus de recueil d'informations, de renseignements, de compilation et on va commencer à mettre en place une veille et à comprendre encore mieux un territoire avec justement ces réseaux qui sont en perpétuelle mouvance parce que un cartel rival aura éliminé une tête de réseau, ou au contraire, il aura été arrêté. Donc du coup, l'idée, c'est d'alimenter cette base de données. L'idée, c'est de comprendre perpétuellement ce qui se passe en fonction d'un territoire, en fonction d'une ressource, et en fonction d'un laps de temps. Et les choses vont très très vite. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, on peut se retrouver avec un changement total de concurrence. Et encore une fois, on parle de dans un jargon économique, mais les rivaux fusionnent parfois, se dissocient complètement, s'éliminent ou au contraire créent de nouvelles entités. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une typologie criminelle qui est extrêmement différente en fonction d'un pays, d'un territoire. Et nous, avec Green Ghost, on essaye de comprendre au mieux comment tout ça évolue et quelles sont surtout les projections qu'on peut avoir sur l'avenir, avec justement des minerais de plus en plus stratégiques et où la faune représente, si je puis dire, une infime partie en fait de ces bénéfices-là. Et le bois reste prédominant, dans justement le retour sur investissement pour eux est très intéressant, et d'autant que le bois issu de l'Amazonie, il est à 75% illégal.
Alors on comprend bien que vous partez sur le terrain avec des collaborations sensibles, confidentielles, la tentative aussi potentiellement de pouvoir dans certains cas vous infiltrer. Eh bien partons avec vous sur ce terrain, avec pour commencer l'Amazonie bolivienne, extrait d'un reportage d'Antoine Chao au sein du parc national Madidi, diffusé sur France Inter le 14 mai 2023 dans l'émission C'est bientôt demain.
Ah, il va.
Alors là, il y a encore... Este río, lo ven, el río está naranja.
Ouais, donc la rivière là est toute orange.
Tu vois, ils sont en train de laver de l'or plus haut certainement.
Alors là, Abel, on voit justement une mine. Hay una mina aquí se ve.
Sí, bueno, esto es una minería ilegal que no está.
Oui, bah justement, ça c'est une mine illégale.
Papeles, no?
Il n'y a pas de papier, de droit d'exploitation.
Invaden territorio. Esta comunidad...
Ils envahissent des territoires. Cette communauté s'appelle Ilepanayoyo.
Y como no está titulada la zona.
Et comme la zone n'a pas de propriétaire, elle n'a pas de cadastre.
Invaden, nos invaden acá la.
Alors ils nous envahissent.
No, entonces es
ici dans nos territoires.
Son personas que traen maquinaria, son empresas.
C'est des gens qui viennent avec des machines.
No, que lo explotan.
C'est des entreprises.
Alluvial, esto es alluvial.
Qui exploitent de façon alluviale.
Agarran, desmontan.
Ils arrivent.
Hacen un hueco, y lavan y lo abandonan.
Et des friches, ils creusent, ils font un trou.
No, ya lo han explotado.
Ils lavent.
No, y vamos a ver mucho
pour chercher l'or et ils abandonnent. Celle qu'on voit juste là, elle a abandonné. Ils ont fini de l'exploiter.
Que están trabajando ya más arriba, no?
Et tu vois l'eau qui est trouble comme ça, ça veut dire qu'ils sont en train de travailler un petit peu plus haut, en amont de la rivière. Il doit y avoir 6 ou 7 entreprises. On les appelle aussi coopératives minières. C'est une plaie vraiment pour toute cette zone, pour la diversité, pour les poissons.
Louis Rochard, ce parc national Madidi, vous le connaissez, cette Amazonie bolivienne. Vous êtes vous-même parti au cœur de ce territoire avec des rangers, hein, c'est ça, pendant 3 jours, ces gardiens de la nature qui ont pour mission d'enquêter sur le braconnage, leur paillage. Mais vous étiez au cœur du parc Madidi pour d'autres raisons, je crois.
Oui, alors ce joyau, hein, Madidi, c'est de façon imagée, pour les auditeurs, ça serait comme si on trouvait Eldorado. C'est riche de biodiversité, on est coupé du monde, on croise personne. Et le peu de personnes qu'on peut croiser, il faut s'en méfier. Et effectivement, j'y étais pour être sur la piste d'Otorongo. Otorongo, donc, veut dire jaguar en quechua. Et c'est un animal qui est vénéré, qui est craint par tant de personnes. Et puis, bah, dans cette civilisation, justement, depuis des millénaires, il est en train de perdre, en fait, toute âme dans ce territoire-là, de par le braconnage. Et le braconnage qui est lié au jaguar, il est purement stratégique. Il est lié à une ouverture, à une industrialisation de l'Amazonie. Pour la simple et bonne raison que, on en parlait tout à l'heure, la porte de sortie pour de nombreuses chaînes illégales liées à la faune sauvage, c'est le marché asiatique. Il faut savoir que la Bolivie s'est totalement offerte à la Chine pour ses infrastructures. Et qu'en échange justement d'accords bilatéraux, la Bolivie facilite la construction de ponts, d'infrastructures routières, ferroviaires, justement pour l'industrialisation de cette Amazonie. Et elle fait venir de nombreux ressortissants chinois qui ont la possibilité de rester vivre sur place. Et de par cette facilité viennent les mœurs, les cultures, les croyances. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, il y a quelques années, un couple sino-bolivien à l'aéroport, arrêté avec 185 dents de jaguar. Et il faut savoir que le marché, effectivement, en Bolivie, sur le braconnage, sur la demande de braconner des jaguars, elle émane justement de cette communauté sino-bolivienne, avec des prix totalement dérisoires, mais où, en fait, la dent de jaguar coûte $150 à l'aéroport Eldorado, donc à La Paz, et coûte $1,500 une fois arrivé en Asie.
Il faut préciser, hein, Louis Rochard, que le jaguar est classé comme espèce semi-menacée d'extinction, donc sur la liste rouge quand même de l'UICN, hein, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qu'il a disparu dans de nombreuses régions, et que le territoire du jaguar est aujourd'hui justement fragmenté, hein, c'est ça, par les activités humaines. Donc son aire de répartition a été divisée par deux au moins au cours du XXe siècle.
Au moins, oui. En fait, elle est de base, c'est ce qu'on dit dans le livre avec Pauline Vallée, le jaguar pouvait se mouvoir du Mexique jusqu'à la Patagonie. On se retrouve maintenant que son territoire de chasse, son territoire migratoire, parce que le jaguar évolue dans différentes sphères de l'Amazonie jusqu'à la ceinture justement plutôt d'Amérique centrale. Là, le jaguar, de par justement les routes, les constructions industrielles, de par la chasse et de par effectivement aussi cette réduction de territoire de chasse pour lui, on a une disparité déjà de base en fait de population, donc avec une consanguinité qui est extrêmement importante autour du jaguar, donc qui le rend beaucoup plus faible justement à l'état naturel parce qu'il est beaucoup plus susceptible aux maladies, au contact avec l'être humain, voilà. Et de par justement cette perte de densité de forêt, il se rapproche de plus en plus aussi des exploitations de bétail et des habitats, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des attaques, certes ça existe, de jaguars sur des chiens, des chats, des humains, du bétail, pour la simple et bonne raison que de base on est sur son territoire et qu'en fait on vient illégalement l'embêter et empiéter sur cet espace-là qui de base ne devrait pas accueillir l'homme, pour la simple et bonne raison que la plupart des exploitations qui ont été touchées ou attaquées par des jaguars anciennement étaient de la forêt dense.
Que font les braconniers des dents, des peaux, des griffes, enfin, c'est-à-dire ils les revendent sur ce marché, mais ça sert à quoi?
Ce sont des amulettes. C'est terrible à dire, mais un animal qui se reproduit très difficilement, qui a une maturité sexuelle assez longue, qui est en plus un animal majestueux, se retrouve autour d'un cou, comme amulette, pour des personnes qui veulent se donner une élévation, on va dire, sociale et se porter chance aussi. Donc on en retrouve par contre de plus en plus sur des membres de cartels mexicains très très puissants, pour signe de force, signe de respect. Et c'est ça qui est lamentable et c'est ça qui est affreux, c'est qu'on a cette beauté qui finalement, et cette force en fait, qui est réduite à être au bout d'une corde.
Alors vous opérez caché, il vous faut des couvertures, dans ce cas-là vous jouez quoi? Le touriste?
Le touriste. Ça reste l'une des meilleures couvertures dans ce type d'environnement. La Bolivie est un territoire effectivement touristique qui est assez attirant pour des aventuriers en quête de sensations fortes. Donc le touriste est effectivement la meilleure source d'anonymat et de jouer le rôle justement de cette crédulité, on peut dire.
Et alors, est-ce que vos travaux, tout ce que vous avez pu fournir comme renseignements, ont abouti à certains résultats? Dans ce cas-là, on pourra parler de d'autres cas, bien sûr.
Alors, c'est là où il y a eu un point de bascule de mon côté sur la façon de travailler, avec qui travailler et ce pourquoi j'ai créé aussi Green Ghost. C'est que, après de multiples allers-retours sur le terrain, que ce soit pour le jaguar, mais aussi pour d'autres animaux, mon travail se retrouve à être noir sur blanc sur un rapport qui sera derrière peut-être modifié, étayé, compris d'une certaine façon et repris par des sphères politiques, étatiques,
judiciaires
aussi dans le cadre d'État. Et il est vrai que ne pas avoir l'entièreté et la continuité de notre travail aboutir à des arrestations comme on le voudrait de par justement cette corruption ou de par la distance géographique qui est faite parce que on est encore une fois sur une dimension internationale, c'est très frustrant d'avoir un travail où on se met en danger aussi, où on voit des choses qui sont extrêmement dures. Aller en Bolivie, ça m'a marqué.
Oui, parce qu'on peut dire que vous avez vu d'autres espèces sauvages vendues. Des conures de Molina sont ces perruches rares d'Amazonie, des paresseux, un singe écureuil. Et on imagine dans quel état vous rentrez avec ces visions-là.
avec ces visions-là et on ne peut rien faire. On a envie de libérer ces animaux, on a envie d'ouvrir les cages, on a envie d'exploser de rage parce qu'on se rend compte qu'on a en face de nous, en fait, une des facettes peu admirables de l'être humain. On ne se rend pas compte, effectivement, du mal que ça peut nous faire, à la fois sur place, mais également quand on rentre chez nous et qu'on laisse derrière, justement, ces animaux-là dans des conditions pareilles. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Afrique du Sud.
Eh bien, justement, partons en Afrique du Sud, si vous voulez bien. Vous allez nous raconter comment vous vous êtes retrouvé dans la peau d'un chasseur de trophées, cette fois-ci. Écoutons auparavant ce reportage diffusé sur France 2 dans le journal de 13h, le 28 janvier 2020.
Regardez, il y a des lions sous l'arbre, là-bas. C'est le roi de la jungle. C'est vraiment un animal remarquable. Et il est toujours le premier sur la liste de ceux que l'on vient voir dans la savane.
Sur les 20 000 fauves que compte l'Afrique, seul un tiers vit encore dans son milieu naturel. Tous les autres sont des lions d'élevage destinés à une autre industrie, très lucrative, pour des chasseurs fortunés.
Au final, ça rend triste de se dire que c'est encore une fois une histoire d'argent.
Et Marco Bieleveld de dénoncer les fermes à lions, où les grands fauves sont transformés en proie facile.
Dans ce genre d'élevage, ils vont vous dire que la maman a abandonné ses petits. Alors vous allez commencer à jouer avec ces lionceaux pour 6 euros. Et ce bébé lion va perdre sa peur naturelle des hommes.
Car ces fauves, élevés dans des fermes à lions, n'ont d'autre vocation que de finir gibier pour des chasseurs venus du monde entier.
À la fin, vous vous rendez compte que les hommes participent à l'extinction de ces lions. Sans nos animaux, notre pays n'est plus rien.
Une telle partie de chasse peut coûter 30 000 euros. Alors les élevages prospèrent. En Afrique du Sud, il en existe 200. Il n'y a pas si longtemps, il y avait ici une ferme à lions.
France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau.
Louis Rochard, en 2021, vous partez direction l'Afrique du Sud, où seuls 3500 lions vivent à l'état sauvage. C'était l'état en 2021 ou c'est encore l'état aujourd'hui, à peu près ?
C'est à peu près le même état, oui.
D'accord. Et où on élève des lions, environ le double en chiffres, dans des fermes souvent insalubres, pour les vendre ensuite à des propriétaires de parcs de safari, des clients fortunés qui achètent à prix d'or le droit de venir tuer un animal sauvage. Mmh. Une pratique légale ?
Une pratique malheureusement légale, mais pas humaine, dans mon sens, si je puis me permettre, où on a un rapport, encore une fois, de dominance totale envers la nature, surtout dans l'imagé de tout le monde, le lion reste le roi des animaux. Il en est réduit, effectivement, à être élevé tel du bétail pour finir, finalement, sa vie dans quelques hectares avant d'être tiré et d'être transformé en trophée pour être accroché à un mur d'une famille, d'un riche homme d'affaires, voilà, qui en fait met encore une fois un prix à la nature et qui se permet d'abattre un animal qui n'aura jamais eu la chance de vivre une vie qui normalement lui était prédestinée.
Alors si ce n'est qu'il y a des zones grises dans ce marché qui flirtent avec le marché noir, les organisations criminelles qui déjà exploitent l'ivoire et les cornes de rhinocéros. Mmh. Et là, ce sont les os de lion qui sont vendus illégalement à des entreprises anonymes chinoises. Vous nous le racontez. Concrètement, racontez-nous comment vous êtes retrouvé là-bas. On imagine, bon, vous ne pouvez pas tout nous dire, bien évidemment, mais comment on infiltre des lieux dans lesquels on ne devrait pas être ? Ce sont des questions que les auditeurs doivent aussi se poser. Et puis, expliquez-nous ce que vous avez vu, concrètement.
Alors, effectivement, ça a été un process extrêmement long, pour la simple et bonne raison que beaucoup de mes, on va dire, homologues à travers le monde ont essayé. Beaucoup de journalistes ont aussi essayé d'y aller. Il y a, je ne me rappelle plus tout son nom, mais il y a eu un photoreporter de National Geographic qui avait réussi à infiltrer avant d'être menacé vraiment de mort et d'être expulsé, violenté. Son article, du coup, à moitié fini parce que, n'ayant pas pu aboutir à l'intégralité de son enquête. Et donc, du coup, ça a été un travail de longue haleine avec une préparation, avec un alias, un pseudo, tout reprendre de A à Z avec une identité identité, me créer un faux compte Instagram, un faux compte Facebook, à commencer à lire justement la chasse, à m'intéresser à une passion qui n'était pas du tout quelque chose qui m'anime.
Pour vous mettre dans votre couverture,
pour
qui
me mettre
était
dans celle d'un chasseur de trophées.
C'est ça.
Et en plus de ça, j'étais du coup censé venir tirer ce qu'on appelle sur un lion. Donc autant vous dire que boule au ventre, parce que ma plus grande crainte n'était pas du tout de me faire avoir. Là, ma plus grande crainte était de devoir tirer vraiment sur le lion et de voir un lion se faire abattre devant mes yeux par ma faute. Et donc ça a été un pari très risqué. Ça a été un pari, en plus de ça, où en plein milieu de l'opération, je me suis fait un petit peu lâcher. Peut-être pour des raisons complètement folles, mais aussi par... C'est encore une fois cet amour pour la nature, et parce qu'il fallait éclairer ça, il fallait donner des pistes de réflexion, il fallait vraiment comprendre, parce que c'est un milieu qui est extrêmement opaque, avec des gens extrêmement puissants, très proches du gouvernement, très proches d'ambassades. C'est un milieu qui est extrêmement dense, opaque au possible.
Ah oui, soutien politique.
Ah oui, énorme, avec des lobbies qui ont une pression dingue. Et puis c'est une industrie, c'est-à-dire que c'est une industrie qui rapporte énormément d'argent au gouvernement sud-africain. Une pratique tout à fait légale, avec justement du tourisme de masse qui vient. C'est comme si vous alliez dans un lodge et vous choisissez si vous êtes sur du 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, en fonction des animaux, de la qualité des animaux, en fonction des fusils que vous allez avoir, en fonction de l'accompagnement, etc. Donc là, j'ai eu la chance d'aller dans quelque chose d'assez élitiste.
Alors quand vous dites juste « on m'a lâché », ça veut dire quoi ?
C'est parce que de base, je devais y aller pour, dans le cadre d'une ONG. Il y a eu un moment donné, on ne sait pas par qui, on ne sait pas par comment, de par justement des connivences, ou de par justement des relations, ou de par justement le politiquement correct, on nous a dit « on arrête ». On arrête cette mission, vaille que vaille, j'y suis allé, avec mes propres
moyens.
Et j'ai tenu ce qu'on appelle, un peu dans le jargon, ma légende. Hein. Donc voilà, ça a été assez compliqué. J'en dormais pas beaucoup des jours avant de partir. Et une fois sur le terrain, ça a été encore pire. Et voir, en fait, c'est même pas une cruauté. C'est encore pire que ça, c'est vraiment l'enfer de voir des animaux nobles, vivants, en plus de ça, en bonne santé, et où dans quelques jours ou dans quelques heures, ils vont être abattus. Et ma crainte, c'était de devoir tenir mon rôle jusqu'au bout et de devoir appuyer sur la gâchette.
Alors en bonne santé, même si ils ne sont pas toujours bien traités, puisqu'on sait qu'in fine, on les élève pour qu'ils soient abattus.
C'est ça.
L'animal traqué, abattu dans un espace fermé, c'est le protocole de cette chasse. Dites-nous ce que vous avez pu voir, et parce que vous avez quand même, pour le coup, extrêmement bien renseigné le système.
Oui, bien sûr. Alors, je reviens juste sur, effectivement, en bonne santé, c'est qu'il y a deux filières. Il y a une filière qui est plutôt destinée à, effectivement, de l'abattage de lions pour des trophées de chasse, où là, on essaye d'avoir un animal qui est très beau, et où plus il sera beau, plus il sera majestueux, plus il va coûter cher, et donc du coup, plus le séjour sera cher, et c'est comme ça qu'on se fait du profit, encore une fois, sur un animal. Et à l'inverse, on a des lions qui sont élevés, dont la pure destination est d'être réduit à du vin d'os.
Et c'est quoi du vin d'os ?
Du vin d'os, en fait, c'est que, encore une fois, c'est de la médecine traditionnelle chinoise. Comme il n'y a plus de tigre à mettre dans du vin, le vin d'os, pour préciser, c'est une boisson que l'on partage avec des personnes de haut rang, avec dans des deals justement commerciaux, industriels, diplomatiques, etc., etc., pour justement festoyer, et où c'est quelque chose comme un cognac. Et donc du coup, faute de tigre, parce qu'il n'y en a plus, on se tourne vers le lion.
Et donc ce vin d'os, il alimente les marchés au Laos, au Vietnam, en Thaïlande, en Chine, etc., avec des réseaux qui flirtent d'ailleurs avec des bandes organisées. Je crois qu'il y a un chef d'origine laotienne qui est surnommé le Pablo Escobar du trafic d'animaux.
Ouais, alors dans le jargon, on l'appelle Vikay, pour Viksay Kyo Savang. C'est un Laotien qui a toujours réussi à passer au travers des mailles du filet, mais c'est pour preuve la corruption qui y règne. Son fils est dans l'armée, enfin voilà, ça reste quand même quelqu'un qui est extrêmement politique, qui est extrêmement stratégique au niveau du Laos, avec justement un équilibre sur les tensions qui ont pu exister à un moment donné entre le Vietnam et le Laos. C'est un monsieur qui a réussi à apaiser justement ces tensions-là, de par justement l'emploi dans des hôtels, dans une diversification, encore une fois, d'investissement de part et d'autre de cette triple frontière avec le Myanmar. Et donc c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté, mais pas du tout respectable en mon sens, qui importe des millions d'animaux et qui exporte des millions de singes à destination de labos pharmaceutiques aux États-Unis et en Europe.
Avec aussi un autre trafic dans le trafic, puisqu'il est au cœur du trafic de cornes de rhinocéros.
Oui.
Hein, là aussi, aux vertus supposées aphrodisiaques selon la médecine chinoise et qui guériraient aussi du rhume et du cancer. Et on voit bien que les autorités d'Afrique du Sud, du Laos et du Vietnam ferment les yeux. Ce commerce de cornes est redevenu légal en Afrique du Sud, je crois, depuis 2017.
Oui.
On comprend que là, vous êtes quand même dans un univers des plus dangereux. Précisons aussi, peut-être pour l'auditeur aussi, et vous le mentionnez dans votre livre, que le département d'État américain a promis $1 million de récompense pour toute info susceptible de démanteler ce réseau.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe pour vous sur place? Vous voyez quoi et comment vous faites?
En Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on voit? Quand on arrive dans cet espace très luxueux, on a l'impression forcément d'être en vacances. On voit pas d'animaux d'ores et déjà, on est plutôt dorloté, on est plutôt chouchouté, on est vraiment dans un 5 étoiles. Voilà, on se dit on va être bien. Et c'est ça tout le paradoxe, c'est que la vue est à couper souffle. On est dans un cadre naturel qui est absolument sensationnel et on est avec effectivement entouré de trophées partout au mur, de chasse avec des têtes d'antilopes, de girafes, de zèbres, de lions, d'hippopotames aussi. Et on est dans un cabinet de curiosité. Et puis de là commence tout de suite le briefing sur comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, quelles sont les infrastructures qu'on a, le choix du fusil, le choix des balles, est-ce qu'on va être accompagné, pas accompagné, etc. Et avec moi, du coup, une famille, le cadre était lunaire, si je puis dire, c'était lunaire. J'étais avec une famille que j'aurais pu croiser dans un all-inclusive quelque part aux Maldives ou quelque chose comme ça, mais là non. Cette famille-là était là pour tuer un lion. Et on s'aperçoit que c'est extrêmement bien déroulé sur le processus. Les animaux arrivent justement d'une ferme au préalable. Ils sont dorlotés pour justement montrer aux clients que tout va bien, que tout ceci, que tout cela. Et puis que les lions sont beaux. Et puis, à un moment donné, on nous apporte un catalogue. Et sur ce catalogue-là, on nous dit, vous avez tel lion, tel lion, vous avez tel zèbre, qu'est-ce que vous avez, un buffle, vous avez, qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous tuer? Au choix, je tue ce que je veux. Et là, on met littéralement un prix sur la tête d'un animal. Et plus la crinière va être belle, douce, longue ou pas, si c'est mâle, femelle, voilà, on est vraiment dans du catalogage. On choisit son animal. Il est vrai que le jour fatidique arrivant, il a fallu trouver effectivement un stratagème sur lequel on a réussi à anticiper, parce que j'en ai évidemment parlé à ma mère, qui reste la source la plus importante justement dans ce combat-là, qui m'a donné plein d'hypothèses possibles, dont justement ce fameux test Covid que j'avais gardé. Et j'en suis très heureux parce que j'ai réussi à éviter ça.
C'est-à-dire que vous avez dit, je suis malade, je suis atteint du Covid, il faut que je rentre. Et je suis
parti et je suis rentré. Et c'est vrai que ça m'a évité ce moment fatidique. Néanmoins, évidemment que le lion qui aurait dû être tué par mes soins l'a été quelques jours après, inévitablement.
Alors, il faut préciser que quand les clients viennent en famille, donc c'est avec les enfants, que si la famille ne parvient pas à tuer l'animal, il y aura toujours un accompagnateur qui va de toute façon le tuer pour vous.
À partir du moment où l'animal en fait est sorti de son enclos, pourquoi? Parce qu'en fait, l'animal a coûté cher. L'animal est sorti d'une ferme, il y a eu le transport, il est arrivé dans un cadre nouveau, il a fallu recommencer à le nourrir, etc., etc., pendant quelques jours. Donc du coup, l'animal ne va pas repartir de là où il vient s'il n'a pas été tiré. Donc dans tous les cas, l'animal sera mort.
Alors vous repartez quand même dans cette affaire avec une grande carte du crime jamais dressée jusque-là, avec 300 noms, on peut le dire. Et après, voilà. Il faut que ce travail continue et serve à quelque chose, d'où la création aussi de votre unité Green Ghost. À ce stade, justement, de l'émission, quelles sont les musiques que vous écoutez quand vous êtes dans ces moments-là ou peut-être avant de partir? Parce qu'on imagine que pour l'état d'esprit aussi, ce n'est pas facile.
Alors, il y a plusieurs types de missions. Si c'est une mission plutôt d'observation, plutôt une mission justement de renseignement, en fonction, encore une fois, de la destination et en fonction de l'optique dans laquelle je me trouve et de l'état dans lequel je me trouve. Donc, parfois, ça peut être du hard rock, parfois, ça peut être de l'électro, beaucoup plus ce qu'on appelle Selvatica. Donc, c'est de l'électronique justement inspirée de sons naturels issus justement de l'Amazonie. Et pour moi, l'Amazonie est un territoire qui est
L'Éden.
Oui, c'est l'Éden et en fait, je m'y sens bien. Beaucoup l'appellent l'enfer vert. Et je préfère passer 2 semaines entières dans l'Amazonie qu'une journée à Paris.
Pour vous, c'est le paradis vert. Vous avez choisi de nous faire écouter
Mangueiro de Bayuca.
C'était Mangueiro de Bayuca, le choix musical de notre invité Louis Rochard. Et c'est la suite de Deux causes à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous poursuivons notre immersion au cœur du quotidien de notre invité, consultant enquêteur en criminalité environnementale et fondateur de Green Ghost, une entité dédiée à appuyer les unités et services engagés dans cette criminalité environnementale. Il est l'auteur d'un livre paru chez Artaud et intitulé « Crimes contre nature », un livre écrit en collaboration avec Pauline Vallée. Louis Rochard, ce livre, il est né d'un sentiment d'urgence face au silence, à l'impunité, pour le vivant que nous avons relégué au second plan, voire pire, et pour en finir avec ce crime silencieux. On sent que c'est le prolongement de votre engagement et de votre combat. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que vous menez ce combat au risque de votre propre vie.
C'est ça. Effectivement, c'est encore une fois, on s'attaque à des multinationales du crime. Des personnes qui sont rodées, qui n'ont rien à perdre et qui ont été façonnées dans justement un univers criminel, qui ont tout à gagner justement à commettre des exactions illégales envers l'environnement. Quand on vient leur expliquer ou quand on vient leur démontrer que ce qu'elles font, ce n'est pas légal et qu'elles ont un impact considérable sur l'environnement, sur leur santé, sur la stabilité sécuritaire et économique de là où on se trouve. Parfois, le courant passe, parfois le courant ne passe pas du tout. Et il est vrai qu'on a vu émerger des tensions de plus en plus importantes entre justement des groupes criminels extrêmement bien organisés, extrêmement bien armés, de par justement cette présence d'esprit et cette intelligence qu'ils développent, parce qu'il faut pas croire, ils sont extrêmement bien intelligents. Ils comprennent qu'il y a des enjeux extrêmement importants derrière et ils se sentent en totale impunité pour la simple et bonne raison qu'il y a une corruption à la fois active et passive qu'ils arrivent à mettre en place depuis des années de par justement leur compétence à détourner la loi et de par justement à passer entre les mailles du filet.
La corruption est partout, hein.
Partout.
Chez les policiers.
À toutes les strates. Toutes les strates. Et c'est là où, justement, la sécurité est très importante et l'anonymat est très important. Et c'est pour ça que je fais extrêmement attention aussi, moi-même, sur le terrain, à mon image au niveau physique et à mon visage. C'est parce que maintenant, avec l'Internet partout qui est disponible au fin fond de l'Amazonie, on arrive avec ce qu'on appelle des sonnettes. Donc, ce sont des guetteurs, des veilleurs qui sont un petit peu partout et qui nous prennent en photo. Et qui partagent tout ça sur WhatsApp, qui partagent tout ça sur Telegram, sur Signal, sur TikTok, etc. Et qui mettent nos têtes à prix, qui nous disent, si vous le retrouvez, boum, quoi. Ouais. Et quand je dis boum, vous avez compris. C'est vrai qu'on est contraint à ça. Je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai fait cette opération qui est racontée dans le livre avec l'armée colombienne, où là, j'ai senti vraiment le danger. J'ai senti qu'effectivement, on avait passé une strate qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Et où là, maintenant, l'or, c'est devenu un produit d'échange considérable et du coup, une valeur à absolument avoir par ces groupes criminels-là qui sont prêts à tout, déjà à s'entretuer entre eux, mais aussi à vraiment réaliser de l'esclavage moderne pour enfants, femmes, hommes.
Oui, parce qu'ils ont leurs mules aussi.
Ils ont leurs mules, il y a de l'approvisionnement d'armes, etc. Et puis, il faut dire aussi que le contexte géopolitique en Amérique latine, il est extrêmement tendu. On a justement un foisonnement d'armes qui émane facilement des États-Unis et ces armes arrivent des cartels du Mexique et les cartels mexicains étant très proches des cartels colombiens, justement dans le cadre des accords un petit peu qui ont été faits entre eux pendant les années 80-90 sur justement la transformation et puis du coup la répartition et l'export de la cocaïne, là on parle d'armes. Et donc du coup les armes descendent de plus en plus en Amérique du Sud et c'est comme ça qu'on se retrouve à être tiré dessus. On se retrouve à être pris à partie et on se retrouve à avoir notre tête sur des groupes WhatsApp avec une somme de 10 000 euros, 15 000 euros pour se faire tuer.
C'est le cas pour l'instant ?
Alors moi c'est le cas pour l'instant, là, ça y est, je me suis fait avoir avec une photo de moi avec 10 000 dollars du coup pour en prime, voilà.
Donc qu'est-ce que vous faites ? Parce que ça circule partout, étant donné qu'il y a des connexions dans tous les pays.
Il y a des connexions partout, il y a des ramifications partout. Donc après, l'idée, c'est justement de jouer de plus en plus sur l'anonymat. Et puis, c'est d'y aller cagoulé, masqué, et puis d'être bien entouré. Moi-même, j'ai pas le droit d'avoir un port d'armes. Et puis, dans certaines situations, en fait, le fait d'avoir un port d'armes envenime encore plus la situation. On va dire, enlève une certaine légitimité de par justement mon rôle d'observateur et d'expert. Je suis pas là pour arrêter, je suis là pour conseiller.
Et renseigner. Il faut rappeler qu'en 2023, près de 200 défenseurs de l'environnement ont été tués, dont la moitié en Colombie.
Oui.
Et cette notion de danger, vous l'avez aussi vécue dans une affaire, hein, c'est celle du totoaba, un poisson endémique du golfe de Californie qui fait l'objet d'un trafic lié aux cartels les plus durs, comme le cartel Del Mar au Mexique.
C'est certainement l'un des trafics d'espèces les plus violents au monde. La pêche illégale représente 23 milliards d'euros chaque année, comme le totoaba. Une espèce protégée depuis les années 70. Nous risquons de voir disparaître pour toujours une espèce endémique importante. Les principaux consommateurs de totoaba se trouvent en Asie, et plus particulièrement en Chine. La vessie de totoaba est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise et aurait des vertus aphrodisiaques. Nous appelons le totoaba la cocaïne de la mer, car un kilo de ce poisson vaut bien plus qu'un kilo de cocaïne. C'est certainement l'un des trafics d'espèces les plus violents au monde.
Extrait du film Planet Killers, réalisé par Martin Boudot et Hugo Van Hoffel pour France TV et diffusé le 4 avril 2023. Vous connaissez bien cette affaire, hein, totoaba, un trafic qui génère l'éradication d'une espèce en voie de disparition, la vaquita.
Ouais.
Expliquez-nous de quoi on parle.
Alors on parle donc la cocaïne de la mer, c'est tout simplement la vessie natatoire du totoaba. C'est une petite vessie qui leur permet de flotter et donc du coup de remonter à la surface et d'avoir différentes immersions. Et cette vessie natatoire qu'on appelle le buche en jargon mexicain, elle est séchée et elle est destinée au marché asiatique. Et elle est soit réduite en poudre, soit mise en bouillon pour être une consommation tout à fait, on va dire, lambda dans des restaurants spécialisés, justement. Tout comme il y a une époque, on parle beaucoup, vous savez, du trafic d'ailerons de requins, où on avait justement les ailerons de requins en soupe, justement, à des mets très importants en Chine. Bon, voilà, c'est la cocaïne de la mer. Pourquoi la cocaïne de la mer ? C'est parce que ses prix effleurent, voire épousent, justement, ceux de la cocaïne.
Le kilo de totoaba vaut 60 000 euros, deux fois le prix de la cocaïne, et donc ce trafic est suivi par le FBI.
C'est très bien que vous l'abordiez parce que justement, on est exactement sur le kilo de vessie natatoire. C'est le même prix qu'un kilo d'or. Incroyable. Donc effectivement, c'est un business qui est extrêmement lucratif et qui du coup est tenu par ce qu'on appelle le cartel Del Mar, qui a prêté allégeance au cartel de Sinaloa. Quand je dis qu'il a prêté allégeance, c'est que du coup, le cartel de Sinaloa les protège, les fournit en armes, les fournit en logistique et en corruption. C'est-à-dire que là-bas, vous ne pouvez pas du tout vous fier à la police locale. Impossible. Soit c'est la marine mexicaine, qui justement a été dépêchée pendant un certain nombre de temps et qui a une collaboration étroite avec l'ONG Sea Shepherd, justement pour veiller, pour détecter et pour remonter les filets fantômes qui sont dédiés justement à la pêche du totoaba. Et le problème qu'il y a, c'est que ce totoaba-là, il a plus ou moins le même gabarit que justement la vaquita, qui est un tout petit marsouin, le marsouin du Pacifique, et qui, du coup, il n'en reste qu'une poignée dans le golfe. Et on se retrouve malheureusement avec une disparition collatérale, avec une victime collatérale, alors qu'en fait, la vaquita n'a strictement aucune valeur sur le marché noir, sur le marché asiatique. Et pour autant, ces deux, le totoaba et la vaquita, sont tous deux endémiques, malheureusement.
Donc un petit cétacé, surnommé le panda des mers.
Le panda des mers, c'est ça.
Hein, et qui est plutôt mignon, on va dire.
Qui est très mignon et qui est extrêmement fragile. Il y a eu effectivement des essais pour la préserver, la mettre dans des bassins, justement pour essayer de la faire reproduire. Et en fait, ça n'a pas abouti parce que c'est un marsouin qui est extrêmement stressé, qui est extrêmement fragile et qui a eu très peu en fait de contact avec l'humain. De façon générale, et donc à chaque fois ça a été un échec.
Alors mignon ou pas mignon, parce que c'est toujours au sens de nos propres préjugés, on va dire. En 2024, il faut préciser qu'il n'en restait qu'une dizaine dans la nature.
Exactement, oui.
Ce réseau, il est tentaculaire. 14 cartels, plus de 40 trafiquants internationaux impliqués. On a compris que la destination, c'était les pays asiatiques. Concrètement, vous, qu'est-ce que vous avez démêlé de tout ça? Parce que ça a été vraiment, sur le terrain, la zone la plus à risque.
Alors la plus à risque, oui, dans le sens où c'est la première fois que je me suis confronté à un cartel. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était ma première mission de terrain. Je me suis lancé dans le grand bain comme ça, et en fait sans du tout imaginer ce qui aurait pu m'arriver.
En tentant de vous infiltrer ?
En tentant de m'infiltrer, en tentant de prendre contact justement avec un membre du cartel qui s'est révélé être très très gentil et très sympa, très intéressant. On a eu de longues discussions, mais effectivement on est dans un climat où on se méfie de tout, parce qu'on sait que cette pêche-là rapporte beaucoup plus que la pêche légale, que les tensions de par la présence justement de l'ONG Sea Shepherd, mais aussi de la marine mexicaine, fait qu'il y a une évolution et qu'il y a un petit peu une montée en puissance justement des rapports de force entre justement les personnes qui essayent de l'endiguer et d'autres qui essayent de contourner cette loi-là. Et on est face, encore une fois, à des personnes qui sont armées. Et l'idée était effectivement d'obtenir du renseignement de par le fait de parler espagnol, d'essayer de se fondre dans le terrain, de jouer un petit peu le touriste crédule à vouloir venir, etc. Parce qu'à la base, San Felipe, c'est une station balnéaire. C'est une station totalement paradisiaque où vous retrouvez des centres de plongée, de la pêche sportive, etc. etc. Donc du coup, ça reste un endroit qui est extrêmement, encore une fois, plaisant, mais sauf que sur ce fond de carte postale-là, vous avez derrière du trafic et vous avez des membres extrêmement armés, extrêmement dangereux, dont par exemple justement ce monsieur Oscar Parra, qui n'a pas hésité à descendre un militaire de sang-froid en plein milieu de la rue et qui était à la tête justement de cette organisation-là, qui peu à peu a été en fait remodelé sous forme de syndicat de pêcheurs illégaux avec justement à la tête une multitude de personnes et un peu une valse entre représentants pour justement essayer d'avoir une corruption beaucoup plus importante. Et on a même, le gros problème qu'il y a, c'est qu'on a même des personnes qui sont dans la mairie de San Felipe qui sont justement liées à ce trafic-là.
Et la police, bien sûr.
Et la police, évidemment.
Corrompue.
Évidemment.
Vous n'êtes pas retourné sur le terrain ?
Là-bas, je peux pas.
Ouais. Donc il y a quand même des secteurs où aujourd'hui vous ne pouvez pas. Dans ce cas-là, est-ce que avec votre entité, vous envoyez d'autres personnes ?
Voilà, c'est ça. En fait, l'entité a été effectivement créée pour que nous puissions un petit peu mutualiser déjà nos différents backgrounds avec des personnes qui viennent plutôt du milieu militaire ou du milieu force de l'ordre, pour déjà avoir une légitimité, avoir une autonomie et pouvoir être embarqué directement avec les unités spéciales avec lesquelles on veut travailler et sur lesquelles on veut épauler les dossiers. Et puis, au moins ça permet de se répartir des zones géographiques qui sont beaucoup plus importantes et où en fait on constate une mutation de par justement ce qu'on appelle les supply chains, enfin les chaînes logistiques justement de ces crimes environnementaux et où ça nous permet de nous attaquer à différentes strates. Donc on est sur la strate prélèvement de ressources, donc on va être plutôt sur le terrain, mais après on va être sur la phase plutôt blanchiment, et donc là on va être dans un autre pays, par exemple sur l'or, on va être plutôt sur les Émirats Arabes Unis ou la Suisse, où on blanchit énormément d'or, et après on va être sur la zone finale de cette chaîne logistique et où on va avoir là des enquêtes beaucoup plus tournées sur le financier, sur l'analyse bancaire et justement comment est-ce que les criminels arrivent à blanchir tout cet argent et arrivent à continuer à en vivre sans être inquiétés et inculpés.
Dans votre livre, Louis Rochard, vous nous racontez bien d'autres trafics, hein, de bois, d'or, de drogue, de bétail, de faune sauvage, etc. Au terme de cette émission, quasiment, il est important de voir avec vous, au-delà du travail que vous remplissez, justement, et qui permet de lancer des alertes ou des enquêtes, que faudrait-il faire aujourd'hui pour lutter efficacement contre cette criminalité environnementale, selon vous ?
Très bonne question. Il y a plusieurs réponses à cela. Il y a, d'une part, la formation des agents sur le terrain. C'est ce qu'on essaie de faire avec Green Ghost. Voilà, c'est d'apporter justement des moyens techniques. Et justement, l'OSINT en fait partie pour justement un petit peu filtrer et commencer à avoir une information beaucoup plus précise de la topographie à la fois du terrain, mais aussi typologie criminelle des personnes auxquelles on va être confronté. Et on doit aussi continuer à mutualiser les efforts avec des accords, justement, partenariats, bilatéraux, etc. Et de plus en plus, considérer que le crime environnemental est un crime économique et donc du coup, commencer à se poser la question du blanchiment d'argent, ce qu'on appelle fameux follow the money, donc en gros suivre l'argent, tracer l'argent du début jusqu'à la fin et ne pas se cantonner surtout à arrêter les premiers ou deuxièmes personnes qui sont effectivement celles qui tuent, celles qui font de leur paillage illégal, mais plutôt les commanditaires bien au-dessus. Et c'est vraiment là que sont les centres névralgiques où on retrouve le stupéfiant, les armes, le trafic d'êtres humains et du coup, l'exploitation illégale de la nature.
Mettre les moyens humains, financiers dans cette lutte, reconsidérer aussi les sanctions en matière de criminalité environnementale et puis croire aussi, vous nous l'expliquez dans le livre, des alliances qui se nouent sur le terrain aussi dans des programmes comme El Pacto financé par l'Union Européenne. Oui. En deux mots, ça consiste en quoi ?
El Pacto, c'est un programme européen qui permet, de, avec l'Amérique latine, de former justement les forces de l'ordre sur justement des problématiques liées au crime organisé. Donc du coup, on a tout type de crime organisé et ce qui est important, c'est de considérer effectivement que la criminalité environnementale fait partie de ce spectre-là. Et ce qui est très intéressant et ce qui vient d'être créé là il y a 3 mois, c'est le fait que au sein des Nations Unies, le département crime et drogue et environnement ont fusionné sur un département qui permet justement dédié avec une étude approfondie sur l'Amazonie de considérer que la drogue, les crimes autour des armes, autour justement des homicides et l'environnement,
c'est un tout
et que donc du coup, on a enfin compris que c'était un crime contre l'environnement organisé transnational et qui regroupait d'autres industries criminelles.
Et comme le disait l'écrivain, journaliste et dramaturge uruguayen Eduardo Galeano, que vous citez, si la nature était une banque, elle aurait déjà été sauvée. Mais on gardera aussi une phrase, là où la nature chute, les sociétés vacillent. Merci à vous, Louis Rochard. Je rappelle le titre de votre livre, paru chez Artaud, Crime contre nature, écrit en collaboration avec Pauline Vallée. Bien sûr, toutes les informations, la biographie sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, ou d'autres podcasts en lien avec le sujet vous attendent. Et puis gardons cette phrase vraiment en tête, nous aussi. Là où la nature chute, les sociétés vacillent.
Merci beaucoup, Aurélie.